Salut mes petites araignées radioactives et bienvenue dans The Marvel Initiative, un podcast qui parle de temps en temps de super-héros, c'est-à-dire que quand il y a un film qui sort, c'est tout. Et entre nous, on a souffert dernièrement. Et là, en l'occurrence, la dernière fois, on a parlé d'un bon film, mais là, on s'apprête à parler d'un film plutôt sympathique aussi. Je suis Sofiane, comme toujours, et avec moi, Max.
Salut, salut. Les frères Maxisoff sont de retour.
Le Spider-Max. T'étais pas là quand on avait fait le premier ?
Non, j'étais pas là, effectivement. C'est ce qu'on vérifiait.
On est allé vérifier parce qu'apparemment, je l'avais fait avec Zoltan tout seul et t'étais pas encore dans l'équipe.
Bah, vous êtes passé au X-Men juste après celui-là et je suis arrivé à X-Men 2.
C'est là que t'es arrivé.
Et oui.
À X-Men 2, bien sûr, pour parler de ce connard de Brian Singer.
Ça faisait longtemps.
Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du Spider-Verse ?
Oh, bah, comme tous les fans de comics, je me suis pris une énorme tarte dans la tronche hein, parce que c'était ce dont on avait besoin à un moment où on était à fond dans le côté Marvel live action avec, c'était juste après, il est sorti après Infinity War du coup qui était sorti en 2018. Donc dans la même année il y avait eu ces deux films, donc on était quand même sur deux propositions très différentes mais qui jouaient à fond la carte de reprendre les comics tels qu'ils sont vraiment quoi.
Et on a eu un autre film Spider-Man sur le multivers depuis.
C'est vrai. Aussi. Effectivement, No Way Home.
Je crois que Into the Spider-Verse, c'était le premier film à se pencher sur le multivers.
Bien sûr, et c'est même ce film-là, je pense, qui a lancé cette espèce de lubie d'Hollywood aujourd'hui.
Maintenant, ça va être dans The Flash, c'est le fil conducteur de la phase 5.
Everything Everywhere All at Once a gagné des Oscars en jouant aussi sur ce concept-là et en le faisant mieux que beaucoup d'autres, d'ailleurs.
Je tiens à dire que j'en ai déjà marre. Du multivers.
Ah ouais, non, mais c'est un concept qui est.
Ça commence à me saouler, c'est des what if à longueur de temps.
C'est ça, c'est que ça.
Et dans l'optique de. Étant donné que la franchise, la saga Into the Spider-Verse a été lancée sur ce concept, le Spider-Verse, il est dans le titre. Mais je parle du fait que. Bon, autant Everything Everywhere All at Once, j'avais vraiment bien aimé.
Space Jam 2 ou des trucs comme ça, c'est la même chose. Hein.
C'est pas vraiment... Ouais, c'est une sorte de multivers Warner Bros.
Ouais, c'est ça. Ouais, ça reste quand même un multivers avec tous les films qui peuvent se retrouver ensemble autour d'un terrain de basket, quoi. Enfin, tous les personnages de ces films. Donc, on joue sur les mêmes concepts. Des concepts qui deviennent déjà très vite éculés, quand même. C'est vrai que...
Ouais, on en a marre, quoi. Ouais.
Et en plus, le truc, c'est que... En fait, t'as tellement de possibilités... que du coup, en fait, t'en perds le fil narratif parce que t'as plus d'histoire à raconter vu que tout est possible. Et du coup, tu perds quand même beaucoup de choses à la longue.
Rappelle-toi, j'avais vachement... c'est pas que j'avais détesté, mais j'avais pas vraiment aimé What If de Marvel pour ce genre de problème. Je trouve que c'est fainéant.
Ouais.
C'est très, très fainéant, en fait, comme... c'est pareil, sur YouTube, il y a beaucoup de fandoms qui ont cette façon de voir... what if this, what if that, et au final c'est plus des fanfictions qu'autre chose.
Mais c'est bien que ça s'en tienne à ça, tu vois, qu'il puisse y avoir dans les comics 2-3 histoires qui ont existé au fil des années, tu vois, des what if pour s'intéresser, c'est plus un truc d'amusement, mais là que ça devienne la norme, en fait, c'est ça qui devient gênant. Je suis d'accord là-dessus. Ouais.
Un des premiers what if, par exemple, c'était Logan, qui rentre aussi dans la catégorie what if, en fait. C'est vrai que c'était la fin logique du personnage, pour l'instant, mais.
Mais je pense que tu vois, on verra une version alternative, une autre version alternative de Logan dans Deadpool 3. Du coup, je suis pas sûr qu'on ait Logan.
On verra, on sait rien James du Mangold, projet quoi. Pour l'instant.
Si, il me semble avoir cru voir passer qu'il comptait en faire un Logan du multivers, en fait. Ouais. Et en piocher un au hasard qui pourrait peut-être, je sais pas, en tenue toute jaune, tu vois, histoire qu'il pousse le concept jusqu'au bout. Quoi.
Et un des grands problèmes qu'il peut y avoir. C'est qu'on ne comprend pas forcément les règles du multivers. Ils nous sortent un peu les règles qu'ils veulent. Enfin, tu vois, normalement, c'est... et si il y a un changement à ce moment-là, par exemple, Tony Stark ne fait pas son armure ou un truc comme ça. C'est et si en fait il y a un chromosome, enfin, tu vois, là ça devient... C'est un peu... Ça s'étire beaucoup quand tu réfléchis en fait, c'est toute la vie qui pourrait être « et si ce matin, t'as pas bu ton café, voilà ce que ça va
c'est
être. »
C'est pour ça que narrativement, ça devient... «
Et si t'es pas allé pisser avant de partir. » Enfin, mais vraiment, en fait, au final, tu peux étirer ça éternellement et je trouve que c'est fainéant.
Ouais. Non, mais je partage ce constat et c'est vrai qu'on on en voit vite la limite, sachant que le MCU commence à peine de rentrer dans ce truc-là. Donc,
dans Endgame, il nous disait qu'on peut revenir dans le temps à partir du moment qu'on remet tout exactement au même endroit. Et là, ça ne crée pas le multivers.
Ça ne crée pas de brèche, c'est ça. Ouais.
Loki nous apprend qu'en fait, il y a une timeline centrale qui est contrôlée par quelqu'un. Et c'est le jour où ce n'est plus contrôlé par cette personne. Là, il va se passer enfin des multivers. On nous explique dans le What If que les multivers, ils ont toujours été là.
Ouais.
Que c'est pas pile poil à ce moment-là que ça a dévié. Ensuite, on nous apprend que dans Doctor Strange, non, dans Spider-Man, que en fait tous les gens qui connaissent Peter Parker, ils sont juste 5 et c'est les seuls qui reviennent dans l'univers. D'ailleurs, c'est un peu étrange. C'est quoi le What If qui a ce qui sépare par exemple Andrew Garfield et Tobey Maguire, enfin il y a des trucs comme ça, c'est très spécial. Qu'est-ce que c'est en fait le moment qui fait le moment What If qui fait que ça a dévié, et c'était lequel, celui à l'origine en fait de Spider-Man aussi, que là ça a dévié. Ensuite, on nous explique qu'il y a donc le Multiverse of Madness dans Doctor Strange, et on ne voit que 2 ou 3 univers, si je ne me trompe pas. Et
ouais, dans ce monde, on en voit 6 ou 7, je dirais.
On nous montre qu'il y a un monde où on est en mode accordéon. Enfin, il y a quoi ? Il y a un monde où c'est des plantes vertes, il y a des plantes vertes partout.
Et bah, en fait, c'est New York un peu inversé, où ouais, c'est des bulles.
Mais en fait, tu as l'impression qu'ils ont, j'en sais rien, moi, ils mettent des idées sur un mur et ils balancent des fléchettes.
Ouais.
Tu vois, ils balancent des fléchettes.
Il y a beaucoup de facilités qui sont utilisées, ouais, c'est clair.
Voilà. Au moins, dans Spider-Verse, on sait plus ou moins à quoi s'en tenir. Il y a plein de Spider-Man, c'est autour de ça que ça tourne. Voilà, c'est assez simple.
Et puis oui, le concept est vraiment en vase clos.
Mais en fait, c'est le concept du film et c'est sur quoi ça va tourner. Alors que avant, on nous a toujours balancé un peu des infos comme ça par-ci par-là sur le multivers. Et même dans les films qui s'appellent Multiverse of Madness, on t'explique rien sur le multivers.
Non.
Il y a eu Ant-Man. Ant-Man, en l'occurrence, qui était censé nous présenter le grand méchant du multivers. Il n'y a pas de multivers.
C'est vrai qu'on ne le voit pas. On voit le micro-verbe, enfin, ce qui est en soi un espèce d'univers du multivers aussi. Tu vois, genre...
C'est pas le multivers, c'est,
bah, c'est une réalité dans la réalité. Donc, ouais. Tu peux te rapprocher vite d'un concept de...
De Matrix, oui.
Ouais, voilà.
Autant dans Endgame, il nous avait bien expliqué, j'avais trouvé. C'était assez simple.
Bah, les explications...
On nous avait expliqué que Retour vers le futur, c'était pas logique. Et que, en gros, c'était ça. Hein.
Oui, oui. L'explication, c'est l'argument.
C'est l'argument. À un moment, ils le disent même. Ouais, ouais, non, Retour vers le futur, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si tu reviens dans le futur, si tu viens dans le passé et que tu empêches tes parents de te rencontrer, ça va créer une nouvelle timeline où tu n'es pas né, mais toi, dans ta timeline, tu seras quand même né.
C'est ça.
Voilà. Ça, c'était simple à comprendre, tu vois. Alors que là, ce que Marvel est en train de faire, et je parle pas de Spider-Verse, parce que c'est encore un autre truc, et on parle d'un film d'animation où ils se font plaisir, c'est surtout ça, quoi.
Oui,
voilà.
Ça, c'est clair.
Là, je parle de Feige, comment est-ce qu'il... J'aimerais avoir la Bible du multivers pour vraiment comprendre exactement où...
Mais je pense qu'ils en ont pas, et c'est justement ça le problème, c'est qu'ils ont pas essayé de poser de suite des bases au concept pour ensuite l'utiliser de la manière qu'ils veulent en le disséminant dans les films. Mais en fait, là, ils le construisent au fur et à mesure, comme ils ont toujours fait, hein, mais avec toujours une ligne directrice, mais qui, là, a l'air d'être quand même très, très floue, parce qu'en plus, ils sont obligés de tout changer tout le temps, donc forcément, ça crée des incohérences par rapport au concept même de multivers qui fait que...
Oui, pourquoi il y a des 4 fantastiques dans un univers et il n'y en a pas dans l'autre ? Pourquoi est-ce qu'il y a déjà Charles Xavier à cet âge-là et que donc quand ils vont introduire les X-Men, comment ils vont faire à ce niveau-là aussi ? Enfin, on peut se poser des questions juste à cause d'une scène dans Doctor Strange qui est juste une scène pour les caméos, pour qu'on parle du film après. Tout le monde n'a parlé que de cette scène et on n'a pas parlé du film au final, quand tu réfléchis. On n'a pas parlé du film. On se souvient juste que Wanda, à un moment, elle fait le ménage et elle tue des personnages importants et on se souvient que de ça. Mais au final, quand tu grattes un peu, il n'y a aucune logique.
Bah, il y a une logique qui est quand même là, je trouve, parce qu'en fait, je pense que leur idée de base, c'est juste de montrer plein de multivers différents sans se poser trop de questions. Maintenant, on met de côté Endgame et ce qu'ils ont expliqué, parce que ça, de toute façon, ils veulent pas se baser là-dessus pour construire leur univers, donc c'est foutu. Depuis Loki, c'est avec Loki qu'on a vraiment compris le truc, et tu vois qu'ils ont changé en fait, ils ont changé de méthode parce que ça leur plaisait pas, ou je sais pas, ça leur convenait pas peut-être pour écrire plus facilement au fur et à mesure aussi. De toute façon, c'est tellement flou les coulisses de Marvel
Studios. En fait,
il y a
beaucoup de retcon, hein, de toute façon.
Bah, en plus,
c'est énormément de trucs comme ça. Et puis, ils essaient de pousser, par exemple, maintenant qu'ils ont la Fox, essayer d'expliquer que, ah, en fait, tout l'univers Fox X-Men, c'était un univers parallèle au MCU, tu vois.
Puis, à la fin de la Multiverse Saga, ils vont, je pense, avec certains qu'ils ont rencontrés dans d'autres, les remettre dans un seul, entre guillemets. Parce qu'en fait, il faudra fermer le multivers d'une façon ou d'une autre, parce qu'ils vont être obligés de s'en débarrasser de ça. Ils vont être obligés, parce que sinon, c'est trop.
Ouais. Il y a un autre film qui va parler du multivers, qui n'est pas Marvel en l'occurrence, qui est DC. Est-ce qu'ils ont un peu expliqué, dans les comics, en gros, ils courent très vite, et ça lui permet de remonter dans le temps, ou d'avoir accès à des portails
C'est la... J'ai plus le mot.
La Speed Force.
La Speed Force, putain, ouais. La Speed Force, et du coup, bah, tu te retrouves avec Flash, qui est d'ailleurs le premier personnage, il me semble, hein, dans l'histoire des comics, en tout cas des Big Two, à
remonter dans le temps.
Non, à aller dans le multivers, en fait, et à jouer avec ce concept-là. Je crois que ça vient de DC à la base. Hein. Je mettrais pas ma main coupée là-dessus, mais il me semblait que c'était ça. Et Flash, ouais. Je sais pas trop quoi en penser. Mais c'est vrai que, bah, avec les bandes annonces, là, on voit bien que on va vraiment être dans le multivers encore, pour dire adieu à des personnages. Enfin, c'est encore jouer sur ces cordes-là une énième fois, et je pense qu'ils en avaient besoin quand même. Parce que...
On sait que Keaton revient, c'est pas un spoiler, hein, de parler du fait que Keaton revient.
À partir du moment où c'est sur les affiches et les bandes annonces.
Ouais, c'est dans les affiches, c'est sur les affiches, les bandes annonces. On se dit, est-ce que ça va être le Keaton d'un multivers différent, ou est-ce que ça va être le Keaton de Burton tel qu'on le connaît, tu vois,
Rester flou là-dessus, parce qu'il y a
qu'un film. Question, donc... Mais en même temps, on en a complètement rien à foutre de ce film, tu vois, donc je sais même pas pourquoi je me pose des questions entre nous. Voilà.
Non, mais c'est intéressant de l'évoquer, parce que...
Il y a une chance sur un million pour que Flash soit un bon film.
Ah bah oui, non, mais y a la cote est...
Et j'espère, je serai le premier à le dire, s'il y a cette chance sur un million, si ça se produit. Mais ça va être compliqué. Hein. J'ai vu les bandes annonces, le maxi best-of de Keaton avec ses phrases cultes qui nous balancent sans aucune émotion. Le fait qu'il se batte comme un gamin de 20 ans,
oui, il est hyper agile,
en CGI. Oh là là. Il y a Zod aussi. Enfin non, mais tu t'imagines que leur seul argument de vente, qu'ils avaient quand même des acteurs comme Ben Affleck, comme Henry Cavill, comme Gal Gadot, ils auraient pu ramener Aquaman, ils auraient pu ramener n'importe qui. Ils ont été chercher Michael Shannon, qui a fait « Ok, ouais, je veux bien un petit chèque, moi ». Et ils se sont dit « Zod, ça va faire vendre. Si on met Zod dans la bande-annonce, il y a tout le monde qui va venir, quoi ». Ils te font même un moment où ils disent « Ah, mais c'est Zod qui est dans la bande-annonce ».
Vous aviez pas remarqué ?
Genre l'élément vendeur, quoi. Imagine, c'est le seul élément vendeur qu'il leur reste, c'est Zod. En tout cas, le premier Into the Spider-Verse, c'était un chef-d'œuvre.
Oui.
C'est très certainement un des meilleurs films Spider-Man jamais fait.
Moi, je dirais même que c'est un, si ce n'est le meilleur film de super-héros tout court.
Le meilleur film d'animation super-héros de tous les temps.
Ça, voilà, ça y a pas de doute.
Rien net, avec Mask of Phantasm, qui doit pas être très loin non plus. Mais je pense que c'est tellement original et tellement beau ce qu'il propose avec Into the Spider-Verse.
Et accessible à tous, c'est ça qui est bien.
Accessible à tous. Par contre, niveau classement Spider-Man, il y aura toujours Spider-Man 2 qui va rentrer dans la catégorie de chef-d'œuvre de films de super-héros. C'est vrai qu'il a touché, il a quand même touché toute une génération. C'est lui qui a vraiment lancé les films de super-héros. Le 2, c'est vraiment celui-là. Donc je dirais que j'aime les deux. Et c'est déjà bien, quoi.
C'est
déjà bien que de nos jours, il y a des films qui puissent concurrencer celui-là. Et c'est triste que No Way Home, par exemple, se soit raté à ce niveau-là, parce qu'on aurait pu l'ajouter. Ça aurait pu être un top 3, Spider-Man 2, Into the Spider-Verse et No Way Home. Et No Way Home s'est raté. C'est dommage.
Surtout sur le concept de multivers.
Ouais, sur le concept de multivers. Ouais, il s'est raté sur pas mal de trucs. Même si je trouve qu'il y a des bonnes choses quand même.
Oui, bien sûr, je le trouve aussi.
Par exemple, Garfield, tu vois, il y a quand même des bonnes petites choses. Mais ça rentre pas dans le panthéon.
Ah bah non, ça ne pourra pas. Le premier Spider-Man de Raimi est bien au-dessus.
Et le premier, donc Into the Spider-Verse, était beau à regarder. Te prenait un personnage comme Miles Morales, à qui on pouvait se poser des questions, tu vois, se dire à quoi il sert ce personnage, je le connais pas bien et tout. Qu'est-ce qu'il différencie de Peter? Quel est son style? Ils ont tout mis dedans. Ils ont vraiment le style de Miles est là, quoi, tu le reconnais.
C'est un vrai message d'amour aux comics à ce personnage.
C'est son vrai personnage, il y a énormément de références aux comics. Le Peter Parker qui apparaît dans le film est super.
C'est une des meilleures trouvailles de l'histoire de Spider-Man.
Spider-Gwen, on pouvait penser que c'était une petite gimmick un petit peu. Spider-Gwen sans connaître, et au final, c'est un super personnage aussi.
Moi, j'oserais même dire
que c'est un peu plus développé dans le 2.
Qui est le personnage le plus intéressant. Si tu prends l'ensemble des deux films, je le trouve vraiment génial.
Ouais, donc trois très très bons personnages. Mm-hmm. Et trois personnages originaux, entre guillemets. Hein, ils viennent des comics, mais c'était la première fois qu'on les voyait.
Bah, t'as une déconstruction du personnage principal et après t'as une version, un pendant masculin et féminin très différent et qui du coup te permettent de recréer la magie de découvrir Spider-Man pour la première fois parce que tu le fais avec d'autres personnages qui sont Spider-Man aussi.
Spider-Man, voilà, oncle Ben qui meurt, c'est bon, on a fait assez de blagues là-dessus. On connaît l'histoire. Quoi,
c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne s'en servent plus comme d'une blague dans celui-là, dans Across the Spider-Verse.
Dans le premier, par contre, ça y allait quand même.
Oui.
Ouais.
Là, c'est un élément dramatique important, tu vois. C'est ça qui est trop intéressant.
C'est canon, comme ils disent.
Ouais, tout à fait.
Et faut quand même en parler, même si c'est encore plus poussé dans le 2. Mais l'animation, c'est un autre niveau, quoi. C'est du jamais vu.
Ah ouais, c'est...
Voilà, il y a pas de mots pour le décrire.
En fait, il y a pas une seule image de ce film que tu n'as pas, sur laquelle tu n'as pas envie de mettre pause pour juste l'apprécier dans ses moindres détails et dans chaque coin de l'image, ça foisonne de partout.
T'as remarqué que c'était pas dans le premier, mais je crois que c'est dans celui-là seulement. Il y a les petites cases jaunes de Stan Lee qui apparaissent pour faire une petite astérix pour te décrire exactement ce que
celle-là,
ce qui
je
se passe.
Je pense pas qu'elles étaient dans le premier.
Non, je crois
que
c'est les cases jaunes qui sont écrites par
les auteurs,
Stan Lee. Non, c'était Stan Lee à l'époque qui écrivait
dans
les cases jaunes et qui disait « Oh, les amis, comment Spider-Man va pouvoir se sortir de cette impasse ?» Tu vois, ce genre de petites cases. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de lire parce qu'il se passe tellement de choses à l'écran.
Ça demande beaucoup d'attention. Hein,
il se passe tellement de choses à l'écran que t'as pas forcément le temps. Et par exemple, moi, je lis pas les sous-titres, mais de temps en temps, mes yeux se posaient un peu dessus. Et tu perds beaucoup parce que tes yeux sont attirés par les sous-titres. Et en dehors de ça, il y a beaucoup de petites références, de petites blagues, de manières de parler qui sont très raccourcies en français. Qui sont très raccourcies en français. Et ça, c'est des petits trucs, c'est un peu... Bref, ça n'a rien à voir avec le film.
Après, je pense que c'est aussi parce que là, on est dans un film d'animation.
Ouais,
je pense que dans l'adaptation, ils essayent...
Il n'y avait pas beaucoup d'enfants dans la salle, j'en ai vu qu'un, je crois, le gamin.
Moi, je crois. Après, on était en journée, donc...
Ouais, on était en journée.
En semaine, donc c'est possible que...
Mais
il marche très bien, le film, donc c'est très bon signe.
Ouais, le film marche bien.
Le film commence très bien, sachant que le premier était sorti vraiment en catimini en fin 2018. Et il n'y avait eu pas une grosse exploitation, parce qu'il n'avait pas été mis dans beaucoup de salles. Et le public n'avait pas trop répondu, alors que c'est vrai que côté critique, il n'y avait pas de souci. Genre, tout le monde était là pour dire, et d'ailleurs le film a eu l'Oscar après, qui était quand même une reconnaissance.
Je trouve qu'en France, d'avoir mis le titre Spider-Man New Generation, c'était une très mauvaise idée déjà.
Et ils en sont revenus.
Ça fait très teenage, Power Rangers New Generation.
C'est pourri, sachant que le titre en anglais est génial, et en plus c'est des mots simples à comprendre. C'est des mots de base du vocabulaire anglais, donc t'as même pas besoin de traduction. Et c'est ce qu'ils ont fait pour le 2, ils sont repassés sur le titre anglais après l'avoir sorti au début dans la promotion sous le titre de Spider-Man Seul contre tous, qui est aussi
en plus
horrible, quoi. Qui est le titre belge, il me semble.
Ah. Spider-Man Seul contre tous. Est-ce qu'on a d'autres trucs à dire sur le premier
La musique, moi j'aimerais... J'avais quand même envie de reparler de la musique du premier, parce que même si la deuxième est cool, je la trouve... un peu moins marquante, parce que aussi, enfin, on en reparlera un peu après, mais je trouve qu'il y a moins les grands moments, des grandes scènes marquantes comme tu avais dans le premier avec la musique qui s'envole.
Moins de moments
autour.
Cool, quoi.
Ouais, de
il n'y a grand, pas le moment cool de.
Le grand moment épique, quoi.
De lui qui jette de l'immeuble. Il n'y a pas ça.
Bah, t'en as un, mais il est un peu inversé.
Il n'y a pas la scène du début du premier où. Où il chante sa chanson là.
Sunflowers,
ouais. Ouais, voilà. Il n'y a pas ça. Mais c'est vrai que à ce niveau-là, c'est un peu moins...
Après, c'est bien aussi qu'ils aient essayé de se décoller un peu de ce qu'ils avaient fait dans le premier, parce que je trouve qu'il y a de la nouveauté, mais des propositions différentes dans ce qu'ils amènent de... Même visuellement, je trouve qu'ils arrivent à faire des trucs qu'ils n'avaient pas fait dans le premier, et c'est...
Après, au niveau de l'animation, il y a pas, je vais pas cracher dessus.
Ah non, mais enfin, c'est de toute façon, je pense que personne ne va dire que ce film n'est pas bien fait, n'est pas beau, c'est pas possible en fait. C'est
son plus gros problème. Je vais y aller tout de suite. C'est qu'il est trop long.
Un poil.
Il est trop long. c'est un film sur Spider-Man. Moi, je commence à en avoir un petit peu marre qu'on essaie de nous vendre les super-héros comme des trucs super épiques et que ça doit durer 3 heures et que, tu vois, qu'il faut qu'il y ait des longues scènes épique, et des machins.
Ouais, il y a plus de longues scènes de dialogue que d'action.
Il y a des longues, longues scènes par moment où je me disais, putain, il est toujours pas fini le film. Enfin, il y a un moment et il finit au moment où tu veux pas qu'il finisse, quoi. Donc, tu vois, il y a un petit foutage de gueule. Au moment où ça devient vraiment, où t'es vraiment dedans, c'est à ce moment-là que ça s'arrête. Comme si on te retirait le tapis des pieds, quoi, un petit peu.
Moi, je savais que c'était un film en deux parties. Donc, j'avais ce truc en tête de me dire, c'est vrai que tu sens qu'ils ne vont pas achever tout maintenant. Et du coup, forcément, tu es quand même un peu frustré, je trouve. Mais c'est surtout, moi, c'est un peu ma limite avec le film, c'est surtout que je trouve que du coup, il n'y a pas vraiment de finalité à ce film. Genre, il n'a pas son arc narratif à lui quand même qui se clôt à la fin du film et qui s'ouvre sur un autre truc. Là, c'est vraiment partie 1, partie 2, quoi. Et genre, tu as juste une pause comme dans une série, quoi.
Ouais, et ça c'est dommage parce que dans la salle on entendait des gens qui étaient pas au courant.
Qui étaient surpris, ouais. Il y a eu des.
Ouais, mais il s'est passé quoi? Bah, pourquoi c'est déjà fini quoi?
What the fuck, quoi.
On entendait un petit peu ça, quoi. Et moi c'est vrai que j'étais au courant sans m'en souvenir.
Ouais.
Je savais que c'était la première partie, mais comme ils l'ont pas mis dans le titre.
Ah non, il y a absolument rien dans la promotion qui te laisse croire qu'il y a un 2 qui va sortir. Une deuxième partie qui sort du coup en 2024.
Ça, c'est un problème ça. Tu fais pas un film aussi long si en plus c'est pour nous dire que c'est que la première partie et que le troisième acte est annulé. Enfin,
c'est ça, moi, c'est ce qui me gêne un peu, c'est que ouais, t'as pas de. Tu peux pas te dire je vais me regarder ce film juste pour celui-là. Tu vois, t'es obligé de te dire je me le regarde dans l'idée d'en regarder deux en fait.
Ouais.
Ça va être deux parties d'un tout. Alors que tu vois, tu prends Infinity War et Endgame par exemple, eux ça marche mieux, tu vois, en vase clos, chacun peut se regarder un peu indépendamment l'un de l'autre. Ils ont chacun leur arc narratif du début à la fin qui sont résolus. Là, c'est pas le cas, tu vois. Il faudra attendre la fin du deuxième pour que les arcs narratifs qui ont été lancés dans le premier soient terminés. Et c'est sachant que c'est pas proposé comme un film en partie 1, partie 2, c'est ça qui est un peu gênant. Ouais.
Ah, moi, j'ai eu du mal avec le rythme du film.
Ouais, non, on en a parlé.
Le premier, c'était un film parfait à ce niveau-là. Le rythme était vraiment parfait. C'était la durée parfaite. C'était exactement les actes étaient parfaits. Il n'y a rien à acheter dedans, il n'y a rien à ajouter, tu le laisses comme ça et tu le mets au Guggenheim. Mais le 2 a un peu plus de problèmes à ce niveau-là, au niveau du rythme, je trouve. Quand même.
Non, je suis assez d'accord avec toi. Et on a Michel qui s'installe avec nous.
C'est pas Michel, mais bon, c'est pas grave.
Michel. Cooper.
Michel est mort depuis longtemps. Il faudrait peut-être tourner la page.
Moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit.
Non, c'est Monsieur Cooper. Il est content.
Non.
Il va mordiller mon porte-carte. Voilà. Donc, 16 mois après les événements du premier film, Gwen Stacy est prise en chasse par son propre père qui ne fait pas confiance en la Spider-Woman. Et elle se retrouve à se battre contre un vautour de la Renaissance.
Qui est génial visuellement pour lancer le film.
qui, dans son design, on dirait qu'il ressemble à un dessin de Da Vinci, en fait.
Ouais, c'est ça.
La manière dont il est dessiné. Et même ses gadgets et tous ces trucs font.
C'est que des bidouilleries qu'il inventait. Ouais. C'est dans ce style-là, en tout cas.
C'est un des vautours les plus flippants qu'on a vu au final. Qui est capable de te faire sauter des buildings et des trucs comme ça. C'est vrai que le vautour, ça a toujours été un personnage pathétique dans les comics et dans les séries d'animation.
Ouais, dans les adaptations.
Ouais, ça a tout. Son niveau est remonté un petit peu avec Homecoming, mais là on le rend encore cool. Et dans le jeu Spider-Man, je crois qu'il va apparaître, ou il est déjà apparu dans le premier.
Il est apparu dans le premier.
Voilà,
il était vraiment très classique pour le coup. Ouais. Il avait pas...
Mais ils sont en train de. Il y a une renaissance du vautour pour essayer de le rendre cool.
Surtout que dans ce film-là, on te tease quand même dans la deuxième partie qu'ils vont se fight contre les Sinister Six. Hein. C'est quand même bien teasé, donc tu sais que tu vas avoir encore un vautour, donc il faudra voir lequel c'est.
Il y a un manque énorme de méchants différents dans ce film. C'est-à-dire qu'il y a un gros méchant dans le film, il y a le vautour qui apparaît au début, mais tu vois, on nous balance pas... On voit 150, 200 Spider-Man, mais on voit pas, que... on voit très peu d'autres versions, sauf on a le moment où on voit Donald Glover... Mm. Mais sinon, on n'a pas vraiment beaucoup de méchants dans le film. On a surtout la tâche, quoi, le spot.
Oui, c'est vrai. Ouais. Mais il y a quand même les Spider-Man qui deviennent, au final, les antagonistes pour Miles.
Ouais. Mais tu vois, pour un film pour un film aussi Spider-Verse et tout le tralala, il n'y a pas beaucoup de méchants de tous les univers, quoi. C'est assez...
C'est peut-être aussi le fait que ça soit un film en deux parties et que dans la première partie, c'est les Spider-Man et dans les deux, c'est plus tous les méchants, tu vois. Genre...
C'est dommage quand ils font ça. Ils devraient se focaliser vraiment sur un film et ensuite, si ça marche bien, ils font le troisième. Moi, j'ai appris la leçon avec Matrix Reloaded et Matrix Revolutions. C'est pas une bonne idée de lancer deux parties si t'es pas sûr. Ouais. C'est toujours une mauvaise idée, je trouve. Regarde les Harry Potter, pareil, les deux derniers, ils sont ramassés.
C'était pas foufou. Même Twilight aussi.
Twilight aussi, ils ont fait ça.
Oui, oui. Ouais. Hunger Games aussi, il me semble.
Retour vers le futur, le 3 était pas... Mm. Je sais que t'aimes bien, mais le 3 était
Non, mais c'est clair que c'était pas du niveau...
Ouais, mais tu vois, ils les avaient filmés ensemble. Mm. Là, ils vont faire pareil avec les Avatars et je sais...
Pour rester dans Marvel, Infinity War and Game ont été tournés back-to-back. Hein.
Mais sauf que, tu vois, t'as l'impression que chaque film était un film. Ouais. Tu vois, vraiment, pour l'occasion, ils ont pas... Ça finit sur un cliffhanger quand même, le premier, mais tu vois, il n'y a pas non plus...
Mais je pense que c'est un peu quand même ce qu'ils ont fait pour ce film-là
aussi. Ils en avaient fait 20 avant, donc eux, ils avaient le droit de faire deux films d'un coup.
C'est vrai. Voilà. Ils n'étaient plus à ça près.
Ouais, voilà.
Mais je pense que c'est un peu ce que veut faire ce film aussi, hein, parce que... Donc, il est sorti en 2018, donc ça fait presque 5 ans, on est aux alentours des 5 ans, quoi. Le film, ils ont quand même eu le temps de le préparer, donc ils ont vraiment eu du temps, ce qui est quand même assez appréciable. Et je pense que du coup, ils ont dû créer de la matière pour faire les deux. Et ils sont sur le montage du deuxième, ou en tout cas dans la fin de la production, j'imagine, parce que s'il sort en 2024, il doit rester du travail, mais ça va arriver vite quand même. Donc, très curieux quand même de voir le projet dans sa finalité. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse maintenant.
Donc, ça veut dire qu'il y a un monde renaissance avec un Spider-Man Renaissance, ou est-ce que ça veut dire que c'est un vautour de la Renaissance ?
Pour moi, c'est un vautour de la Renaissance.
Donc, ils voyagent dans le temps.
Non, mais...
Donc, encore une fois, leur multivers n'a aucun sens, tu vois. C'est genre, tu te dis, en fait, il vient de la Renaissance, ou est-ce qu'il vient d'un monde où c'est encore la Renaissance ?
Ouais.
Si tu commences à te poser des questions, comme j'ai tendance à faire...
Je pense que c'est plus un monde où c'est encore la Renaissance.
Alors, c'est pour ça que vous écoutez, les gens, c'est que je pose des questions à votre place. Mais c'est le multivers, quoi. Il y a Miguel O'Hara et Jessica Drew qui viennent au secours de Gwen. Mm. Donc Jessica Drew qui est enceinte et qui a une moto, alors que dans les comics elle n'est pas forcément enceinte avec une moto.
Pas la version la plus connue de Spider-Woman, non, c'est clair. Mais après Jessica Drew est...
La version la plus connue de Spider-Woman, elle est blanche et grande et fine avec des gros seins.
Mmh. Et un espèce de masque.
Toute moulante, la tenue toute moulante, vraiment le truc qui de nos jours c'est un peu...
Oui, c'est un personnage très sexualisé, on peut le dire.
C'est la Lara Croft un petit peu de son époque, quoi. Donc là, elle est totalement transformée et surtout, elle est enceinte. Et c'est assez marrant parce que, encore une fois, comme toujours, le thème de tous les films Spider-Man, c'est comment je vais faire pour être Spider-Man et avoir une vie sociale. Tu vois, ça a toujours été comment je fais pour avoir des parents, une copine, etc. si je suis Spider-Man. Et là, on a une réponse pour deux personnages. On en a une qui est enceinte et qui continue à être Spider-Man et l'autre qui a un bébé et qui continue à être Spider-Man. Donc on a quand même des éléments de réponse un petit
Bien
peu.
Sûr.
Et en gros, le seul moyen d'avoir ces deux vies, c'est de les fusionner.
Ouais.
En fait, si tu veux vivre heureux et être Spider-Man, il faut que tu sois obligé, même si ça peut les mettre en danger.
Il faut leur dire.
Il faut leur dire.
Il ne faut pas vivre dans le secret et le mensonge. Quoi. Voilà. C'est surtout ça.
Et donc on a ce petit exemple avec une femme enceinte et un mec avec son bébé.
Ouais. Ah, c'est bien vu.
Alors que Gwen s'apprête à se faire arrêter par son père... Elle se retrouve à rejoindre la Spider Society. Il n'est pas trop cool, le Capitaine.
Non.
Il est prêt à arrêter sa fille comme ça.
D'ailleurs, la première scène du film, du coup, la scène d'introduction...
Où elle joue de la batterie.
Mmh. Ouais. C'est vraiment...
C'est Birdman.
C'est un film en soi. Non, mais c'est un film en soi.
C'est Whiplash et Birdman.
C'est un mini-film sur Gwen. Enfin, cette introduction... qui d'ailleurs fait un peu croire que le film va peut-être être un peu plus tourné autour de
justement, ouais, je trouvais que c'était un...
Qui enfin, reste un personnage central.
En regardant le début du film, je me suis dit, ah ok, donc le premier est sur Miles, donc le deuxième va être sur Gwen.
Enfin, prend son point de vue pour suivre l'histoire.
Voilà, et au final, c'est surtout le petit court-métrage au début sur Gwen, qui aurait pu être un petit court-métrage qu'ils auraient vendu le film, tu vois, pour dire voilà...
T'as un peu ce sentiment-là quand...
Ouais, une preuve de concept, quoi, voilà. Et au final, le film revient sur Miles, ouais. Et c'est clairement un film Miles Morales.
Oui, oui, bien sûr. Qui est quand même intrinsèquement lié à tout ce que fait Gwen. Donc Gwen est quand même très, très présente et on va beaucoup de fois dans son univers. Donc il n'y a pas de changement en fait, par rapport au premier film du point de vue. Mais c'est vrai que ça pouvait le laisser penser au début.
On peut croire comme ça, je veux dire, si tu commences le film avec
Mais
elle.
Mais par contre, on va pouvoir en parler maintenant. Ils ont annoncé, du coup, quand il y a eu les avant-premières américaines, que du coup, il y avait un live-action Miles Morales qui était en préparation. Et un film d'animation Spider-Gwen.
Et live action Miles Morales,
tout à fait,
donc
ouais.
MCU ou Sony?
Sony. Eh ben oui, ben oui. Et du coup un film d'animation Spider-Gwen, sachant qu'ils ont dit, je crois que ça risquait d'arriver bien plus vite que ce qu'on croyait, parce que de ce qu'on peut penser. Donc à voir si nous le sortent pas en surprise, en biscuit, en attendant la deuxième partie.
De son côté, donc, Miles Morales a grandi et il s'adapte à sa vie de Spider-Man en mentant beaucoup à ses parents, qui doivent se dire qu'il est sûrement dealer de drogue.
Il commence à le dire, le père, d'un moment, il dit, je crois qu'il a des mauvaises fréquentations.
Non, mais c'est étonnant qu'il n'y ait jamais eu vraiment de questions, genre, c'est quoi ? C'est que t'es dans une secte ? C'est que tu vends de la drogue ? Est-ce que t'es gay ? T'oses pas nous le dire ? Tu vois ? Enfin, je m'imaginais un peu une scène un peu comme ça. Et il y en a pas
il
trop.
Tourne toujours autour du pot sans
moi,
jamais
si
poser
flic
la question.
Et mon fils se barre tout le temps. Tu sais pas trop.
Pose la question. Qu'est-ce
il
que tu
arrive toujours en sueur, tu vois, genre. Je le fais suivre.
Une petite filature là.
Ouais, une petite filature. Je demande à un détective privé de le suivre, quoi. Enfin voilà. Mais là, ils sont marrants. J'aime beaucoup les.
Ah, le duo
les
parental
parents,
est vraiment
les parents,
très touchant et tu.
Je suis plutôt amoureux de la mère de Miles. Comme elle met ses cheveux sur le côté, là.
Ouais, c'est une jolie coiffure.
La coiffure princesse Disney.
C'est vrai.
Non, ouais, ils sont marrants, je trouve, le duo.
Ouais, et puis comme tu t'es déjà attaché à eux, parce qu'ils
ça change
quand même
de Tante May qui fait ses leçons tout le temps, tu vois. C'est quand même un couple plus moderne, c'est quand même plus... c'est plus contemporain, quoi.
Oui,
tu
et puis ça,
un
oui,
peu moins...
Ouais. Plus de notre époque, ouais.
Il rencontre la Tâche, Spot... qui se dit être son némésis.
Ouais.
Donc ça, c'est un personnage des comics qui était plutôt une blague.
Ouais. C'est vraiment les persos les plus étranges.
Donc là, c'est drôle, c'est qu'il commence comme une blague et ça devient l'ennemi vraiment sérieux du film.
Il a une évolution qui est incroyable, même visuellement, l'évolution, elle est ouf. Hein.
Une évolution, même visuellement et au niveau du personnage, etc. Tu vois, un petit peu comme Electro dans Amazing Spider-Man 2.
Bravo.
Je suis le seul à encore penser à ce film.
Et aux sardines, aux anguilles.
C'est ça, je suis le seul à avoir encore ce film dans ma tête. Mais j'ai adoré ce qu'ils ont fait avec ce personnage. Qui est, tu me disais, la voix, c'est Jason Schwartzman en anglais.
Ouais, c'est ça.
Donc en plus, il a ce petit côté connard que tu as envie de lui mettre une claque. Ouais, Schwartzman, il est parfait pour ça.
Surtout la scène où tu le découvres, où il est en train de vandaliser, enfin de récupérer un.
Au début,
TM,
on se moque de ses pouvoirs. Il est pathétique. Mais en fait, quand tu réfléchis, ses pouvoirs sont super cool.
Mais surtout qu'il le dit, c'est mon premier braquage, tu vois. Ouais. Genre, du coup, lui, il découvre presque comment il va utiliser ses pouvoirs. Parce que tu sens qu'il est encore en apprentissage. Il a deux, trois concepts qu'il peut maîtriser un peu. Mais...
Tu sais qu'en gros, il a le pouvoir Looney Tunes, tu sais, les ronds noirs qui balancent sur le sol et ils peuvent mettre la main dedans, tu vois.
C'est le sac d'Hermione Granger, quoi.
Ouais, le sac aussi. Mais c'est dans Roger Rabbit où il y a une scène avec le rond. Et... J'ai adoré ce personnage. J'étais très surpris parce que je n'ai rien lu. J'ai juste vu les bandes-annonces, peut-être même une bande-annonce, et j'ai rien lu sur le film.
J'ai pas regardé la deuxième bande-annonce.
Donc j'y suis allé vraiment comme ça. Et déjà, je l'ai vu et je fais « Ah, c'est cool de voir le Spot et tout, d'avoir ce personnage qui revient pathétique. » Et plus ça avançait, plus je me suis dit « C'est super bien ce qu'ils sont en train de faire avec. C'est vraiment super bien. » Parce qu'à la fin, même Miles est là, c'est mon némésis, tu vois. Alors que c'est le Spot, quoi. Enfin, c'est la Tâche. C'est le personnage le plus pathétique. C'est comme si Kite-Man, il devenait le némésis de Batman, quoi.
Ouais,
tu vois,
c'est
un truc comme
et,
ça.
Et surtout que...
Mais ça fonctionne.
Et puis, enfin... la patte graphique, enfin visuellement, enfin la direction artistique sur ce personnage, c'est ouf parce qu'en plus c'est une tache d'encre, donc ça te ramène aussi quand même au comics, c'est encore un truc un peu méta et tout, et t'as toute cette évolution dans la deuxième partie, il devient la version alternative noire quoi, qui a pris pleine possession de ses pouvoirs, et genre c'est, il est flippant parce qu'en plus ça donne envie de revoir le premier pour voir si tu peux apercevoir ce personnage au moment où ils sont dans l'espèce d'usine d'Octavius là.
Ah, sûrement il devait y avoir des personnages qui servent à rien comme ça, des scientifiques.
C'est pour ça que j'ai envie d'aller diguer dans le premier pour voir les scènes où on pourrait le voir apparaître, parce qu'il dit que Miles Morales lui a balancé un donut à la gueule. Donc,
Oui, c'est ça qui a il dit son l'élément déclencheur, c'est que Miles Morales lui a balancé un, c'est pas un donut, c'est un bagel.
Un bagel, ouais.
Un bagel. Donc bagarre, hein, au niveau de l'action, c'est toujours aussi bien. Surtout avec les pouvoirs de Spot, ils sont plaisir.
Ouais, et puis c'est la combinaison de Spider-Man avec les pouvoirs de ce personnage-là, ça fait des ouais. La scène où il l'arrête la première fois avant de justement...
Il se met un coup de pied au cul lui-même.
et Miles l'enferme en fait en le faisant passer lui-même à travers, avec des toiles à travers plusieurs portails.
Donc tu vois un pied à gauche, une main en bas.
Le plan est génial et c'est que des bonnes idées comme ça, c'est trop bien. Ils ont vraiment une envie créative avec ce projet de film, c'est vraiment fou.
Gwen fait son retour dans la vie de Miles. Le chat va appuyer sur les boutons.
Il veut mettre du volume.
Et ensemble, ils vont à Mumbatan,
ouais.
Qui est le Manhattan indien.
C'est ça.
Et donc, il y a énormément de monde, c'est super grand, il y a des bouchons partout. C'est tout simplement, ouais, c'est l'Inde, mais...
Américanisé.
Américanisé, ouais, c'est un drôle de concept. Et ouais, c'est joli en plus.
Ouais, en plus, visuellement, c'est très beau.
Visuellement,
ouais.
C'est intéressant. Il rencontre le Spider-Man indien et le Spider-Punk, qui, lui, a un look dessiné années 70-80.
Ouais. Avec, t'as l'impression qu'en fait, il est même pas dessiné. En fait, c'est du collage de journaux de l'époque avec cette espèce de... que tu retrouves sur les albums des Sex Pistols ou des trucs comme ça. Donc, t'es vraiment dans cette
et il a l'accent anglais cockney. Il a donc il utilise toutes les expressions un petit peu anglaises
Et puis c'est un anarchiste quoi.
C'est un anarchiste, il est anticapitaliste.
Ses répliques sont vraiment hyper forcées à chaque fois, mais vu que c'est un anarchiste, c'est juste drôle quoi.
Il se barre, c'est le premier à quitter le groupe, hein,
ouais,
allez, je me casse.
Moi, j'ai rien à faire.
Ouais, ça va, c'est un bon personnage.
Mais même, tu vois,
il a peut-être une relation avec Gwen.
Ouais, tu sens qu'il y a... Bah, en tout cas,
Miles, ils ont pas genre 15 ans d'écart. T'as pas cette impression qu'il est vachement plus vieux qu'elle.
Ouais,
quand
il
même.
Fait vachement plus âgé. Mais on dirait Jimi Hendrix, quoi.
Et elle porte ses Converse. Parce que d'habitude, elle porte des ballerines, Gwen.
Ouais.
Et là, elle porte des Converse vertes, ouais, j'ai vu. Donc, il y a toute une histoire sur le canon. Sur les choses importantes qui arrivent à tous les Spider-Man en commun. Que ce soit... D'ailleurs, ils parlent pas de la mort de Gwen. Hein.
Non, j'y ai pensé. Ouais. Ouais. Ils en parlent pas.
Ils parlent pas de la mort de Gwen, alors que quand même, c'est dans le top 3.
Moi, je l'ai lu, je le sais. Hein.
Il lui est arrivé tellement de trucs dégueulasses à Spider-Man que tu dis perdre sa petite amie, c'est dans le top 3. C'est même pas le premier. Parce que Oncle Ben, c'était dégueulasse. Gwen, c'était difficile. Je me rappelle plus comment il meurt dans les comics, le père de Gwen.
Bah, comme ça.
La même manière ?
Ah bah oui, c'est ça, en voulant sauver un enfant. Alors que Spider-Man
est sur place. En voulant sauver un enfant, donc c'est...
Il se fait écraser par les éboulements. Je crois qu'on même on voit le dessin, d'ailleurs, dans le film.
Donc c'est l'instant où on voit Tobey Maguire, on voit l'oncle Ben de Tobey Maguire, on voit Andrew Garfield, donc tous en train de pleurer. Sony qui nous montre, vous rappelez que j'ai les droits du personnage.
C'est ça, c'est vraiment ça.
Et... Il y a des bonnes petites références, comme par exemple, je le disais tout à l'heure, il y a Donald Glover qui est un moment dans le film. Donc pour les gens qui ne savent pas, Donald Glover, dans le MCU, dans Homecoming, il incarnait l'oncle
Aaron.
De Miles Morales, alors qu'il n'y a pas de Miles Morales dans le MCU, enfin on ne sait pas.
Bon, en tout cas,
il y a l'oncle. C'était un mec où Internet, à l'époque où il jouait dans Community, Internet voulait absolument qu'il joue Miles Morales en live action, donc il y avait eu des tonnes de pétitions, des tonnes de trucs, c'est pour ça qu'il s'était retrouvé dans Homecoming.
Et
donc là, le voir jouer une version donc, du Rodeur en costume et en plus en face à face avec Miles Morales, le personnage que tout le monde voulait qu'il joue. C'est méta sur méta sur méta, quoi. Et déjà, c'est toujours un plaisir de voir Donald Glover.
Oui. Et il y avait même une scène dans Community où il était en,
ouais.
En tenue.
Était
bon,
en
c'était un espèce de pyjama
Spider-Man.
Spider-Man,
ouais. Ouais, tout à fait. C'était en réponse parce que bon, tout l'été, tout le monde voulait qu'il joue Miles Morales. Et quand ce Community est revenu, dans son début de saison, il était habillé en Spider-Man. Ils vont tous dans le QG de la Spider Society où il y a des centaines de Spider-Man. T'en as vu des que tu connais?
Oh, j'en ai reconnu quelques-uns, ouais. Après, c'est pas des Spider-Man que je connais. Et après, en fait, je les ai connus grâce... Pour la plupart, c'est le genre de costume que j'ai pu reconnaître. C'est ceux, par exemple, qui sont dans le jeu sur PS4 où, en fait, bah, du coup, t'as plein de costumes que t'as pas l'habitude de voir qui te sont présentés. Et du coup, bah, j'avais regardé, tu pouvais un peu diguer et découvrir quelques personnages parce que c'est vrai que t'as des versions futuristes de Spider-Man dans tous les sens. Moi, je ne les connais pas toutes.
Il y a Ben Reilly.
Oui, Ben Reilly, forcément, qui est ça, pour
donc
le coup.
Le clone.
Le fameux clone de Spider-Man.
Donc, qui... la saga clone des années 90 a failli faire couler
Spider-Man. Ouais, ouais.
Et c'est devenu une blague maintenant.
C'est ça.
Où, en gros, Spider-Man avait été remplacé par un clone de lui-même. Et de toute façon, il y avait plein de clones, si je me rappelle bien.
Oui, il y a plusieurs clones
et
de
Ben
de
Reilly,
Peter, ouais.
Donc, était ce clone. Et c'était Spider-Man avec une veste en jean.
C'est ça, Scarlet Spider.
Voilà. Et il était plus violent, je crois.
Ouais, plus violent. Et
c'était sûr. À la même époque où il y avait eu Bane qui cassait le dos de Batman. I break the bat. Et il était remplacé par Azrael. Non, pas Azrael. Je sais plus quel personnage. Il était remplacé par un gars qui était super Paul Valley, ou je sais plus, les fans de comics vont sûrement me le dire, qui était genre Batman, mais super violent, avec des flingues et tout. Et dans les années 90, ils avaient ce délire de remplacer Superman, ils l'avaient remplacé par un mec violent aussi. C'était de se dire, bon, allez, on en a marre des... C'est plus le super-héros de papa et de maman, maintenant.
Ah bah, les années 90, dans les comics, de toute façon, c'est très testostéroné, même...
Venom vient de là,
exactement.
Cable vient de là.
Et tous les personnages hyper bodybuildés qu'on peut avoir l'habitude de croiser, ils viennent souvent de cette période-là. Ouais.
Qu'est-ce que tu penses de Miguel O'Hara?
Moi, j'aime beaucoup le personnage, pour le coup, parce que...
C'est Oscar Isaac?
Ouais, tout à fait. Ouais. Le personnage de base me plaît, parce que, bah, pour avoir lu quelques histoires... Déjà, visuellement, je trouve que c'est un Spider-Man différent qui a son truc à lui. Tu vois, il est aussi un peu comme Miles, très...
C'est le Batman Beyond.
Oui, oui, il y a un peu de ça.
C'est le Batman
Beyond de Batman.
Et au lieu d'être un gamin, c'est un adulte et tout. En fait, c'est l'inverse de...
Ouais, c'est un peu le miroir inversé.
C'est la même chose que Batman Beyond, mais avec l'inverse pour que ça tienne mieux avec Spider-Man.
C'est ça. Ouais. Et le personnage est cool. Là, je l'ai... un peu sous-exploité au final.
En fait, c'est le seul, comme ils le disent dans le film, à un moment, t'es le seul Spider-Man qui est pas drôle.
Ouais, du coup, t'es chiant.
Du coup, il est chiant, quoi. Du coup, il est pas...
Mais la première scène d'action où on le voit arriver, justement, dans l'intro du film, est cool. Enfin, genre, tu vois, avec ses toiles rouges et tout, t'as vraiment des trucs à faire et je pense qu'ils sont pas assez éclatés avec le perso sur celui-là, quoi.
Ouais.
J'aurais aimé qu'on en voit plus, mais bon, vu qu'il y a deux parties.
Ouais, j'ai été un peu déçu aussi. On le sent dès le début que ça va être une sorte d'antagoniste.
Oui, bah, de toute façon, il n'y a pas de secret dessus. Ouais. On dit quand il faut aller le chercher.
Mais ça aurait été bien de le rendre un peu plus cool autrement que de nous montrer c'est Spider-Man avec, des fils laser.
Et même, je pense que pour le grand public, enfin pour les gens en tout cas qui ne connaissent pas forcément toutes les histoires des comics et qui ne sont pas non plus à fond là-dedans. C'est pas simple de comprendre vraiment d'où il vient, qui il est vraiment, parce que là, on te le présente avec une espèce de scène de flashback où on te raconte ce qui lui arrivait, mais en soi, c'est pas de là où il vient, c'est ce qu'il faisait. Mais du coup, c'est un peu frustrant. Dans le premier, tu sais, t'avais, même si c'était vraiment un truc, ou dans le deuxième, ils disent on refera plus ça, quoi, mais ce fait de représenter le personnage avec une voix off qui t'explique qui il est, enfin la personne qui explique qui elle est en voix off et compagnie, du coup de pas l'avoir sur des personnages comme lui, c'est peut-être un truc qui manque un peu.
Ouais, c'est vrai que encore une fois, ce sera peut-être dans la suite, on va apprendre qu'il a perdu sa fille ou un truc, tu vois, un truc dans le genre,
oui.
Voilà. Et que sa fille elle s'appelle Gwen, tu vois, ça s'écrit tout seul. Des comics, ça s'écrit tout seul. Mais ouais, je l'ai pas trouvé génial. Je trouve que c'est un peu le point faible du film, à vrai dire, au niveau des personnages. Je trouve que tous les personnages sont plus ou moins cool.
Et ouais,
ils apportent chacun leur truc.
Je suis un peu d'accord, mais je pense qu'on peut être surpris parce que c'est le problème du ce qu'on va devoir dire tout le long, c'est que bah il y a deux parties donc
mais on... c'est dommage, ça me saoule.
Mais ouais, c'est
ça
un peu,
m'emmerde.
C'est un peu frustrant.
On vient de se taper un film de 2h30 presque. Mm. Quand même, on devrait quand même avoir
un arc
pour ouais, ce personnage,
ça.
Tu vois,
ouais.
qu'il a un arc. Autre que je suis le mec qui serre les dents
et qui te court après.
Qui donne les ordres, quoi. Mm. Ouais, on n'a pas... C'est un peu dommage, et j'espère qu'ils vont rattraper le
moi,
le
je suis pas forcément inquiet, mais c'est vrai que pour moi aussi, c'est un peu une petite frustration sur l'ensemble des personnages qui sont presque moins nombreux que dans le premier. Au final, les personnages principaux que tu suis, il y en a moins, au final.
Tu vois, une petite déception pour moi, c'est Peter B. Parker.
Mm. On le voit pas assez.
Le seul développement qu'il a, c'est qu'il a un bébé.
Oui.
Bon, et ça fait que ça me stresse dans les scènes d'action qu'il y a un bébé.
Oh.
Je sais que c'est une scène, c'est de l'animation, etc., qu'il va rien arriver au bébé, mais j'arrête pas d'être stressé à chaque fois.
C'est mignon.
Il est là, genre, je lui ai donné des toiles et tout. Je fais, pourquoi t'as donné des toiles au bébé? Non, ça me stressait tout le temps. En plus, il est avec son peignoir et tout. Enfin, je veux dire, c'était déjà une blague dans le premier film, mais il y avait du sentiment.
Ouais.
Tu sentais qu'ils aimaient bien le personnage. Alors que là, c'est un peu juste une blague.
Ouais, un peu. Mais moi, tu vois, je pense que c'est une blague parce que justement, enfin, il le considère encore plus comme une blague dans celui-là parce qu'il n'est même pas une seule fois en costume.
C'est vrai. Ouais.
Après, c'est le Spider-Man papa, donc c'est son costume en soi.
Il... C'est bizarre, il n'y a pas de Peter C. Parker. Peter D. Parker.
Peter E. Parker.
Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de Peter Parker.
Non, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup.
Ouais, tu vois, il n'y a pas. Pour moi, Peter Parker, c'est un peu censé être le. Voilà, la base, quoi.
Il y a celui de Gwen, qu'on voit au
blueprint.
Tout début.
Ouais.
Dont on voit la mort.
Oui, c'est vrai qu'on voit celui de Gwen qui meurt, mais ça, c'était déjà dans son origine dans les comics, hein, d'ailleurs.
Oui, bien sûr, mais qui a une. Du coup, qui a une. Visuellement,
qui devient le lézard.
Qui est un peu un Peter Parker qu'on n'a pas trop l'habitude de voir visuellement.
C'est logique qu'il devienne le lézard parce que c'est un scientifique.
Oui.
Le lézard, c'est son prof, il est très proche de lui et tout. Donc c'est vrai que techniquement, c'est un peu logique qu'il devienne le lézard. Donc ouais, le bébé, par contre, on sait que c'est la fille de Mary Jane. Il n'y a pas de question. On n'est pas sûr pour Peter,
oui.
Mais on sait que c'est la fille de Mary Jane. Quoi. C'est la même tête que Mary Jane en bébé.
Oui.
Donc, en gros, la morale de l'histoire, c'est que tous les Spider-Man doivent souffrir pour arriver à survivre et à sauver le monde. Et, est-ce que t'aimes bien, toi, cette logique
C'est
un peu comme dire les parents de Batman doivent mourir.
Ah, c'est ça, en fait, on en avait parlé avec No Way Home déjà de ce débat-là.
Pour que Joker puisse exister, comme ça, Joker, il tue des millions de personnes. Donc, ouais, c'est vrai que.
C'est tellement inhérent au personnage que tu peux pas faire sans, quoi.
Il y a Batman aussi.
Et vu que c'est des films qui essayent de pousser le concept de ce qu'est Spider-Man au bout, le premier, c'était de montrer que n'importe qui peut porter le masque de Spider-Man et du coup devenir Spider-Man. Là, dans le deuxième, on est plus sur on est vraiment sur le cœur de ce qu'est le personnage de Spider-Man avec justement toutes les cases à cocher pour arriver à ce qui fait l'histoire de Spider-Man, quoi.
Ouais. C'est un peu nihiliste sur les bords, comme façon de penser. Le film est assez dark dans ce qu'il veut raconter. Hein.
Ah bah, de toute façon, ouais, tous les grands échanges qu'il y a, c'est généralement, c'est pas des grands récits d'amitié. C'est plus des amitiés qui se défont, des trahisons, des mensonges. Il y a quand même plein de choses.
Ouais, et puis...
plus dark.
On ne sait pas encore si Gwen et Miles vont finir ensemble. Il reste encore beaucoup de questions.
Enfin, y a un dialogue en fin de film. Tu sens qu'elle est intéressée par ce que disent ses parents, quand même.
Ouais.
Ça la touche, quoi.
Oh, mais ils se kiffent, les deux. Bon, il y en a un, c'est plus évident que l'autre.
Oui.
Mais Gwen, elle l'aime bien. Enfin, ça se
ressent. Pour ça qu'elle retourne le voir, de toute façon. Parce que même si elle est au courant de ce qu'est
Miles... C'est pour ça, c'est mignon. C'est pas juste lui qui... On commence pas le film avec lui qui fantasme sur Gwen. Mmh. On voit tout de suite le point de vue de Gwen... Et on voit que dans son point de vue, elle aime bien Miles, elle a des sentiments pour lui.
Donc elle ne peut pas s'empêcher d'aller le voir, donc elle le fait.
Ça, c'est plutôt sympa.
C'est ce qui montre que justement, elle l'aime.
C'est pas juste Miles qui est obsédé par elle ou un truc
comme
ça. Quoi. Ouais.
Non, c'est bien écrit.
Miles se rend compte donc que son père doit mourir.
Et va mourir.
Et on apprend aussi que Miles est la toute première anomalie Il est à l'origine du multivers?
Il n'est pas à l'origine du multivers, il est à l'origine, tu sais,
des brèches. Des brèches.
C'est ça. Ouais. De personnages qui se retrouvent envoyés dans d'autres.
Ok.
Qui crée un espèce de bug, j'ai l'impression. C'est ce qu'il explique avec tout le truc visuellement qu'on voit aussi, qui est génial, avec les branches du multivers, là, dans la pièce toute noire.
C'est original, ça.
C'est trop cool.
On n'a jamais vu un truc avec des branches qui partent dans tous les sens.
Mais ils partent avec une toile. Ils prennent une toile d'araignée comme base, donc c'est parfait, c'est génial.
Je sais, mais c'est parce que dans Loki, ils nous font la même. Donc...
Non, mais le premier, c'est vraiment un arbre classique.
Oui, dans le premier, ouais. Et ensuite, ça...
Et après, ils te montrent justement comment fonctionnent les toiles de ce multivers, et ça, c'est intéressant.
Pas de référence à Tom Holland, hein ?
Non, aucune.
Pas de référence au MCU, pas de référence à...
Indirectement avec Donald Glover, mais...
Parce qu'ils auraient pu montrer, par exemple, la mort de May, par exemple, tu vois, pour dire que lui, c'était son élément déclencheur, c'était la mort de May, qui fait qu'il a décidé de devenir pauvre. Et c'est ça, hein.
Je crois
que j'ai pas oublié Noé. C'est bon, j'ai pas oublié Noé. c'est la mort de sa tante lui a fait décider que c'était mieux d'être pauvre, en fait. Gwen arrive à aller dans l'univers de Miles grâce à Obi. Et au même moment, Miles arrive dans un autre univers et il avoue à sa mère qu'il est Spider-Man avant de se rendre compte qu'il est dans le mauvais univers, en gros, parce qu'elle sait pas.
Ça, c'est un super twist, par contre. C'est très,
un très bon twist.
Très, très cool, bien amené.
On voit que son père est mort, parce que c'était une bonne idée aussi, le fait qu'il y ait une sorte de fresque pour son oncle et que là, maintenant, ce soit celle de son père. C'est un peu comme la photo dans Retour vers le futur ou un truc comme ça. Enfin, tu vois tout de suite, visuellement, tu comprends tout de suite qu'il y a un truc qui ne va pas.
Tu as un schéma pour comprendre facilement.
Tout de suite, tu vois qu'il y a un truc qui ne va pas.
Puis l'ambiance est waouh.
Et on apprend donc que c'est lui le rôdeur. Enfin, le Miles de cet univers est le rôdeur.
Et le rôdeur,
Et la détresse aussi. Et ça se finit comme ça.
Face to face.
Il y a un petit moment quand même où Gwen crée son équipe Avengers ou un truc comme ça.
Elle crée sa contre-team.
Il y a Spider-Ham et il y a Spider-Man noir qui reviennent.
Qui sont de retour.
Qui sont de retour par rapport au premier.
Avec les personnages principaux, enfin les principaux
Spider-Man.
Ils
disent rien, comme ça on n'a pas à payer Nicolas Cage ou John Mulaney.
Ouais,
ça
va être
un peu plus cher.
Pas besoin. Voilà. Ils seront là dans la suite.
Et donc, c'est décevant parce que c'est vrai que le film. En fait, je pense que le film aurait pu perdre 10-15 minutes et avoir une fin un peu plus. Moins cliffhangeresque. Ouais. Et ça aurait pu être un bon film qui se tient tout seul.
Même
et,
coupé
et là, j'ai des petits soucis vis-à-vis de la longueur du film.
Ouais.
Et aussi le fait que c'est vraiment au moment où ça devient cool que ça s'arrête. Quoi.
T'as une grosse frustration.
Que là, ça devient original, qu'il y a un truc différent. Que
Surtout avec la scène de fin de Spot, c'est génial. Enfin, t'as envie d'en voir plus. Hein. Tu veux voir comment il va utiliser ses pouvoirs. Et là, t'es juste là. Ah, il arrive.
Ouais, et puis tu veux savoir comment Miles va retourner dans son univers. Comment Gwen va réussir à le rejoindre ou à le sauver. Qu'est-ce qu'il va faire Miguel aussi qu'est-ce qu'il a prévu. Donc ouais, il y a quand même beaucoup de cliffhanger.
Et puis
en fait, c'est un film de.
Il y a la mort du père de Miles aussi qui, en tout cas, a été annoncé. Donc il y a quand
c'est même. C'est un film d'exposition vraiment pour poser le prochain film. J'ai l'impression. C'est un peu dommage. J'aime pas trop ce genre de film en fait.
Mais en fait, c'est surtout que comme tu le disais tout à l'heure, ça manque un peu de rythme dans le film. Ouais. Et en fait, le rythme aurait pu venir justement avec des scènes d'action.
Il vient de l'animation, le rythme.
Parce que la grande scène d'action du film, en fait, c'est la course-poursuite entre les Spider-Man et, qui est en plusieurs parties, hein, qui s'étale sur une première partie et puis une deuxième. Mais...
Ils ne sont pas encore sur un train ou un truc comme ça ?
Non, bah, ils sont sur une espèce de navette qui va sur la Lune. Ouais.
Non, parce que combien de fois Spider-Man il va être sur un train ?
Il y a une scène très très drôle d'ailleurs qui nous a fait rire tous les deux quand le mec est en train de le Spider-Man est en train de tirer de chaque côté d'un pont.
Et il passe
tout le monde lui passe dessus.
Tout le monde lui passe dessus.
Il se fait agresser par le chat.
Parce que
là.
Ça, c'est vrai que l'image de Spider-Man en train de tenir, ça commence, c'est quand même pas mal.
Avec son côté christique et compagnie, genre là,
c'est pas mal.
Il y a plusieurs vannes où on a rigolé quand même.
Tu te rappelles dans Man of Steel quand. Quand Superman, ils sont dans le vaisseau et il dit à Lois, ouais, t'inquiète, je vais sauver le monde. Et il part et il fait le signe de croix comme ça avant de partir. Bref, voilà, je pensais à ça. Excusez-moi. Je suis désolé de vous rappeler
des mauvais souvenirs.
Les films de Zachary. Donc, moi, personnellement, j'ai aimé le film. J'ai moins aimé que le premier. Je vais être honnête. Et je pense que ce film va peut-être gagner à avoir un deuxième film.
Ouais.
Parce que là, pour l'instant, je trouve qu'il y a beaucoup de blabla, un petit peu de répétition par moment. Les thèmes sont super bien. Le côté Spider-Man doit toujours souffrir, etc. Oui, je veux dire, No Way Home a fait exactement la même chose il n'y a pas si longtemps que ça. Tu vois, c'est quand même un truc qui revient un peu tout le temps. Voilà, c'est un peu comme Batman doit être tout seul. Tu vois, enfin, c'est un peu le côté-là.
C'est les vieilles rengaines des personnages.
Voilà, exactement.
Leur vieille marotte.
Pareil, Superman doit être tout seul dans sa forteresse de solitude. Enfin, tu vois, c'est un peu des trucs qui reviennent. L'animation est toujours parfaite.
Ouais.
Là, il n'y a rien à dire. Le son aussi, au niveau du son. Les glitches et les trucs comme ça, les petits sons.
Il y a plein de petites choses qui sont très fines.
Très sympa.
Et puis même, en fait, à quel point la musique est raccord avec l'image, j'ai trouvé qu'à des moments, c'était vraiment de la perfection. Enfin, et sur des scènes d'action, parce qu'il y en a quand même des scènes d'action dans le film. Il y a vraiment des trucs qui sont de l'ordre du génialissime, quoi.
On a des passages en Lego image par image.
Exactement.
On a des passages au Spider-Man dans les années 60. Les vieilles voitures, les vieux trucs.
Parce qu'on voulait en voir plus dessus.
Ouais, on a quand même... De nos jours, on a de la chance quand même d'avoir ce genre de film qui existe.
Ah bah, c'est vraiment
des anomalies.
Là,
on a de la chance parce que pour les fans de Spider-Man, c'est quand même ce qui se fait de mieux, quoi.
Et il y a un duo dont on n'a pas parlé et qui est quand même derrière tout ça à la base, c'est Lord et Miller, encore une fois, qui
font un petit clin d'œil au Lego. En plus.
Et ils sont tous les deux à l'écriture du film cette fois. Sur le premier, il n'y avait que Phil Lord, je crois. Et là, ils sont tous les deux, donc...
Peut-être pour ça qu'il est surécrit.
c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible, parce que c'est vrai qu'ils aiment beaucoup le dialogue, hein, ils en mettent beaucoup. Tu regardes les films Lego, il y a quand même énormément de vannes, d'échanges, de grands messages sur ce que c'est que d'être quelqu'un dans un univers, machin et tout. Là, c'est la même chose, et ils en mettent la tarte. Hein.
Ouais.
Mais par contre, enfin... La base de ce projet est vraiment géniale et tu peux qu'être réjoui de te dire en fait bon, on va avoir une suite dans un peu plus de 6 mois. Et
ah ouais, c'est dans 6 mois?
Bah, dans 6 mois, on est en 2024, donc je sais pas quand est-ce qu'il arrivera dans l'année, mais
Bah, sûrement à la même époque.
Ouais, bah
dans un an, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Peut-être un peu.
Je pense dans un an.
Ça fait du bien un film Marvel sans scène post-générique à la fin.
Ouais, ou alors on l'a raté.
Non,
on
n'est
pas resté jusqu'à la toute fin. Donc
je crois pas qu'il y en ait. Enfin, pour moi, ça paraîtrait incohérent de faire un to be continued et derrière te mettre une scène post-générique, quoi. Soit tu t'arrêtes là, soit tu mets ta scène post-générique.
Ouais, en plus, entre nous, les scènes post-génériques de nos jours, ça veut plus rien dire.
Bah oui, non, ça a bien perdu de...
Mais par contre, c'est dommage parce que je sais plus c'est à quel moment. C'est au moment, je crois, où... Au Ragnarok, il y a le vaisseau qui apparaît devant Loki et Thor. C'est le moment où il fallait avoir vu les post-credits pour comprendre le film.
C'est vrai.
C'est à partir de ce moment-là. Avant, tu pouvais être tranquille, à peu près tranquille, et regarder, et rater les post-credits, mais tu comprenais encore le film d'après. À partir de ce moment-là, maintenant, ils nous mettent beaucoup, beaucoup de trucs importants, mais ça enlève de l'impact. C'est juste... on prépare le prochain. Il n'y a pas vraiment d'âme. Il n'y a pas vraiment d'âme dedans. Mmh. Alors qu'à une époque, c'était quand même réfléchi un minimum,
ouais,
au niveau des blagues et tout. Enfin.
C'est ce qui a aussi fait au début sa force, c'est dire quand tu vas voir un film Marvel, bah, tu vas avoir un truc après qui va t'annoncer des choses que tu vas voir par la suite plus tard.
Il y a encore des mecs qui font des centaines et des centaines de retweets en tweetant un truc con comme imagine quitter la salle avant la scène post-credits d'un Marvel. On les voit. Donc ouais, hein, c'est un film très sympa. Le prochain film dont on va parler va être beaucoup moins sympa.
Oui, mais on a eu de la chance, hein, d'avoir de bons films à la suite comme ça. Ça fait plaisir.
Là, on va faire The Flash, le prochain film. Et ensuite, ce sera...
Bah, on a la série sur Secret Invasion.
Ouais,
aussi,
ça, ce sera sur le Patreon. Patreon.com/plan-séquence, si ça vous intéresse. Il y a beaucoup de trucs que je dois encore poster pour tout le monde et je m'excuse. Et ouais, vous aurez accès à toutes les prochaines séries du MCU. Bon, là, il n'y en aura qu'une cette année, je crois.
Une ou deux, ouais.
Une ou deux, ouais. Donc,
Et on aura en novembre Miss Marvel 2, du coup.
Ouais.
Enfin, pas Miss Marvel 2, mais
on va avoir
The Marvels, pardon.
Blue Beetle.
Oui, c'est cette année Blue Beetle ?
Ouais, c'est cette année Blue Beetle.
D'accord.
On a dit que si on faisait Blue Beetle, on ferait aussi Shazam 2.
Oui.
On ferait une double feature.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc faut pas oublier.
J'ai vu Shazam 2, moi, de toute façon, donc je peux en parler.
Sur la saga, en ce moment, je parle de King Kong. C'est plutôt sympa. Mm. On fait tous les King Kong, donc 1933, 1976, 2005 et Skull Island.
On parle de cinéma très différent, du coup, c'est ça qui est très cool.
Ouais, là, ça va être à travers les époques et c'est plutôt sympa. Et j'ai fait un épisode sur le Patreon, sur Rampage aussi, il n'y a pas longtemps. J'ai survécu à Rampage.
Si ça, c'est pas un argument
Rock,
pour s'abonner au Patreon.
Voilà,
quand
ça
même.
Vous donne pas envie. Sinon, j'ai aussi fait Brain Dead et plein d'autres trucs. Nous, on se retrouve donc pour la prochaine série Marvel ou pour The Flash. À la prochaine, tout le monde.
Salut.